There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Foucault Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre. Pour faire changer les choses.
Nos efforts collectifs contribuent à arrêter la propagation de la COVID-19. À mesure que les commerces rouvrent, respectez l'écart sanitaire et portez un couvre-visage quand c'est difficile de respecter l'écart. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau coronavirus.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, Je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmelade?
Voyons, c'est qui ça? La madame, tu fais quoi? Oh, debout là-bas, là, debout, 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 debout!
Eh oui, êtes-vous franglais ou francophone? En mars 2022, CUTFM, RFI et leurs partenaires vous invitent à célébrer le mois de la francophonie. Et ça va bouger! Après plus de 2 ans à tourner en rond, cette 35e édition vous invite à bouger et à cadencer au rythme du monde de la francophonie. Concours, un témoignage, un débat, rencontres littéraires, cinéma, humour, des exclusivités et bien encore. Et oui, mars 2022, ça va bouger, bouger, pour changer son mal de place. Actes culturels, sociaux, éducatifs, devenez partenaire à la première radio de la ville de Toronto. Valorisez votre programmation de la semaine ou du mois de la francophonie. Inscrivez-vous à notre programme officiel 2022. Envoyez-nous votre logo. Découvrez les modalités. Écrivez-nous immédiatement à popourri@cut.fm. Êtes-vous franglais ou francophone? Nous sommes 300 millions de francophones dans le monde, alors il faut se parler et bouger, bouger, bouger avec Popourri Show sur CUT 89,5 FM. 35 ans déjà, on est toujours bien ensemble et on bouge.
Depuis le tout début de l'histoire du Canada, les personnes d'origine africaine ont fait d'importantes contributions au développement de notre grand pays. Le 2e bataillon de construction a fièrement servi le Canada au cours de la Première Guerre mondiale. William Hall est devenu le premier marin canadien, le premier néo-écossais et le premier noir à recevoir la Croix de Victoria. Marianne Shad Carey a été la première femme d'origine africaine à publier un journal en Amérique du Nord. Les Afro-Canadiens ont laissé leur marque dans la musique, dans les sports, et continue de contribuer à de nombreux aspects de la vie canadienne. Célébrons notre fier patrimoine. Célébrons le mois de l'histoire des Noirs.
Wake up, Africa, the time is now. Wake up, Africa, the time is now. Must be done on any. We got to live together. Must be done on any. We got to live together.
Édition spéciale, émission de clôture du mois de l'histoire des Noirs sur CUT 89,5 FM, Toronto. La voix des sans-voix, 35 ans déjà, on est si bien ensemble. L'ingénieur du son, montage et mixage, DJ Devera, production et animation, Eric Adair, avec vous sur www.cut.fm. Ou sur le câble 946 Rogers. Pour écouter nos émissions, une seule adresse, popourrishow.com. Cette émission est réalisée en partenariat avec le CREFO et ses nouveaux podcasts, le département de justice sociale en éducation, Université de Toronto, le Flo Franco, artiste de la ville d'Ottawa. En février et en tout temps, célébrons l'histoire des communautés noires. En février et en tout temps, nous célébrons les figures exemplaires de la communauté noire partout au Canada. Mais qu'en est-il chez les francophones d'ascendance africaine et antillaise? Qui étaient les premiers arrivants noirs au Canada? Suite aux récentes manifestations au Canada et les revendications du convoi de la liberté, plusieurs auditeurs francophones d'origine africaine sont inquiets de l'avenir du Canada. Qu'en pensent nos invités? Être noir et francophone en Ontario, au Canada, quels sont les enjeux? Quels sont les défis? Et parmi nos invités, Dr Amal Madibo, professeur agrégé au département de justice sociale en éducation à l'Institut d'études pédagogiques en éducation de l'Université de Toronto. Ses recherches se penchent sur les études noires, la francophonie, l'immigration et la race et l'antiracisme en Afrique. Elle nous invite au lancement de son dernier livre, Blackness and la francophonie, racisme anti-noir, discrimination linguistique, construction et négociation d'identités minoritaires multiples. Prévu pour le mardi 1er mars de 17h à 18h30 en mode Zoom. Un événement organisé par le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, en partenariat avec l'Université d'Ottawa. 2 ans après sa mort, George Floyd alimente toujours un courant artistique dénonçant la brutalité humaine face à la différence. Le Flo Franco, jeune artiste noir franco-ontarien de la région d'Ottawa, revient avec un nouveau titre, Noirceur absolue. C'est la suite de sa chanson Coup de poing. Au lendemain de la mort de George Floyd, vous vous souvenez, lancé même ici à cette antenne. On en a assez. C'était il y a 2 ans de cela sur CUT FM. Que voici.
Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez. Est-ce que ça va changer ou ça restera ainsi? Sérieux est le danger, trop de cris dans la nuit, blanc et noir ennemi. Blessé et enragé, regard intense engagé. Nos jeunes sont dans les rues, petits enfants dans un rapide, une rage dessus. Nouvelle à la télé, controverse habituelle. Une jeunesse menottée, notre fierté devenue rebelle. Un jugement erroné, une personne condamnée, fut se emprisonnée. Année après année, yo, on en a assez, on en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez.
Eh oui, le Flo Franco, artiste franco-ontarien d'Ottawa. On en a assez sur lefaufranco.com. Leflofranco.com. Allez visiter son site. Très intéressant. Il sera des nôtres vers 11h35 à ne pas manquer. Et à tous les nouveaux auditeurs, auditrices de la région de Québec, ils sont nombreux à nous écouter hein, chaque dimanche en France, en Afrique et en Martinique. Merci mille fois de votre fidélité. Place au magazine L'Accent des Autres, les temps forts de l'actualité des médias francophones publics avec RFI.
Voici comme chaque semaine l'essentiel de l'actualité vue par les médias francophones publics, L'Accent des Autres. C'est le fruit d'une collaboration entre la Radio-Télévision Suisse, RFI, Radio-Canada, la RTBF et France Inter. Et on commence en France précisément avec Karine Bécard, une histoire de tarifs jugés exorbitants. Plusieurs départements refusent de payer, de supporter financièrement une partie du coût du passage de la flamme olympique sur leur territoire.
Oui, et c'est une mauvaise nouvelle pour le comité d'organisation des JO de Paris 2024 qui va devoir corriger le tracé de sa flamme olympique puisque 7 départements ont déjà décliné la proposition. Pas question de débourser 150 000 euros pour la regarder passer.
À propos de la France encore, après 9 ans de présence militaire au Mali, elle décide de se retirer officiellement du pays, Clémentine Pavlotsky.
Oui, c'est la fin d'un cycle de presque une décennie de lutte contre le djihadisme. Nous verrons ce qui a motivé cette décision.
En Belgique, les faits de violence ont considérablement augmenté dans le secteur du transport public. Chaque jour, 13 agressions sont commises en moyenne sur le personnel des bus, des trams ou des chemins de fer, Jacques Crémers.
Oui, c'est une augmentation de 23% par rapport à l'année précédente. Pour les gestionnaires de ce secteur, c'est la crise sanitaire qui polarise la société et met le vivre ensemble sous pression.
Au Canada, Benoît Audet, la plupart des provinces ont commencé à relâcher les mesures mises en place pour contrer la propagation de la Covid.
Oui, des mesures qui avaient été été pour la plupart remises en place pour faire face à la vague du variant Omicron tout juste avant le temps des fêtes.
Même constat ailleurs, en Suisse notamment, où depuis jeudi à minuit une, plus besoin de présenter un certificat Covid ou de porter le masque au bureau, dans les commerces ou dans les lieux de divertissement. Pierre Enchaffa.
Le gouvernement a en effet levé toutes les mesures sanitaires d'un coup, à l'exception du masque, dans les transports publics et les établissements de santé. Un grand ouf de soulagement a traversé le pays.
Voilà donc pour les titres de cette semaine. Bienvenue dans l'accent des autres. Au moment où les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin se terminent doucement, je vous propose de débuter avec un œil sur les Jeux Olympiques d'été. Cette fois, ce sera à Paris en 2024. Un rêve olympique que plusieurs départements français, 7 pour l'instant, trouvent un peu, disons, amer. En fait, ils refusent d'accueillir le passage de la flamme d'ici 2 ans. La raison est assez simple, le prix demandé est jugé exorbitant. Le comité d'organisation de Paris 2024 réclame entre 150 et 180 000 euros. Certains territoires ont d'ores et déjà décliné, comme va nous l'expliquer Julien Froment.
Prenons l'exemple de la Touraine. Sylvie Ginet est vice-présidente du conseil départemental en charge des sports. Eh bien, elle a encore du mal à digérer la somme demandée pour accueillir la flamme olympique.
Et à propos de la France, on va revenir un instant maintenant sur son retrait donc du Mali, annoncé cette semaine par le président Macron. C'est donc officiel. Après 9 ans de lutte contre les groupes djihadistes, la France, mais également ses partenaires européens, quittent ce pays africain. Ce retrait intervient après plusieurs mois de tensions diplomatiques entre Paris et Bamako, depuis le second coup d'État de mai dernier, avec en point d'orgue, Clémentine, la récente expulsion de l'ambassadeur français au Mali.
Oui, premier élément mis en avant par Emmanuel Macron, les obstructions de la junte au pouvoir à Bamako. Pour le président français, les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre efficacement l'engagement militaire actuel. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement autour d'autorités dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés, explique-t-il. Le président français dénonce également la présence des mercenaires de la société paramilitaire russe Wagner, des mercenaires accusés de multiples exactions dans d'autres pays comme la Centrafrique. C'est donc la fin de 9 ans d'intervention militaire française au Mali. Tout a commencé en 2013 avec l'opération Serval, suivie de l'opération Barkhane. Les forces spéciales européennes Takuba se retirent elles aussi du Mali. Elles devraient se redéployer au Niger voisin. Paris ne quitte toutefois pas définitivement la zone. La France et ses alliés européens souhaitent rester engagés dans la région sahélienne et étendre leur soutien aux pays voisins du Golfe de Guinée et d'Afrique de l'Ouest. Un retrait qui devrait s'étaler sur plusieurs mois.
Oui, et en réaction, le gouvernement malien de transition a demandé ce vendredi à la France de retirer ses troupes du Mali sans délai et sous la supervision des autorités maliennes. En Belgique, cette fois, le nombre d'agressions verbales et physiques à l'égard du personnel des sociétés de transport en commun est en forte hausse, plus 23% en 2021 par rapport à l'année précédente. Ça signifie, Jacques, 13 agressions par jour en moyenne.
Des insultes et des menaces, mais aussi des coups qui visent les conducteurs de bus, de tram ou de métro, mais aussi les accompagnateurs de train, comme cet agent confronté à un petit groupe de jeunes sans titre de transport.
Au moment du contrôle, donc, j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas de titre de transport. J'ai téléphoné naturellement à la sécurité et de ce fait, ils sont sortis du train. Donc ils m'ont coincé entre la porte et moi, ils s'étaient mis entre. Et au moment de fermer mes portes, ils ont coincé la porte, ils m'ont craché dessus, et puis ils ont commencé à me frapper. Et puis j'ai eu l'intervention d'un collègue qui était à l'intérieur, et puis ils se sont écroulés.
Comme dans ce cas, 1 fois sur 4 pour le personnel de la SNCB, c'est bien d'une agression physique dont il est question. Cela parle le plus souvent d'une discussion pour l'absence de titre de transport valide, mais aussi pour un non-respect des règles sanitaires ou pour des comportements inappropriés. Au-delà des blessures et des conséquences psychologiques, ces agressions ont aussi un impact sur la disponibilité du personnel des différentes sociétés, avec en 2021 plus de 11 400 jours d'incapacité de travail.
Oui, et pour les directions des sociétés de transport, Jacques, la cause de cette augmentation est clairement à mettre en lien avec la crise sanitaire.
Oui, une crise sanitaire qui polarise la société et met le vivre ensemble sous pression. Les accompagnateurs rapportent de nombreux cas de tension entre voyageurs et l'expression forte d'un sentiment d'insécurité. En réaction, les gestionnaires disent appliquer une politique de tolérance zéro à l'égard des agresseurs, parallèlement aux poursuites devant les tribunaux. tribunaux, d'autres initiatives sont aussi mises en œuvre, comme un renforcement des équipes de sécurité via des recrutements, la formation des collaborateurs au contact de la clientèle ou des actions de contrôle ciblées. Les sociétés qui lancent également un appel au respect à l'ensemble des utilisateurs, respect pour le personnel, mais aussi pour les autres voyageurs.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Au Canada, à présent, c'est le blocus des camionneurs qui a retenu l'attention ces dernières semaines. Nous vous en avons parlé il y a 8 jours, d'ailleurs. Mais on assiste aussi à un relâchement important des mesures anti-Covid. C'est le cas notamment dans les deux plus grandes provinces du pays, l'Ontario et le Québec. Benoît, vous êtes à Montréal. Commençons d'abord avec le Québec, où le gouvernement a véritablement appuyé sur l'accélérateur du déconfinement.
Oui, de nombreuses mesures phares ont été abandonnées ou sont en voie de l'être. Par exemple, le gouvernement du Québec va laisser tomber le passeport vaccinal dès le 14 mars. Le gouvernement estime que l'imposition du passeport vaccinal l'été dernier a encouragé 600 000 Québécois à se faire vacciner.
Le Québec qui annonce aussi d'autres mesures de relâchement au cours des prochaines semaines, Benoît.
Oui, par exemple, tous les commerces pourront rouvrir leurs portes à 100% de leur capacité dès la semaine prochaine. Dans moins de 2 semaines, les salles de spectacle pourront aussi être remplies à pleine capacité. On veut que le 14 mars, à peu près toutes les activités reviennent à la normale. Pas question toutefois pour le moment de laisser tomber le port du masque dans les endroits publics.
Et il faut dire que la pression était forte pour un retour à une vie un peu plus normal.
Oui, surtout que la province voisine de l'Ontario avait annoncé avant le Québec des mesures de déconfinement. Par exemple, l'Ontario va laisser tomber le passeport vaccinal dès le 1er mars. C'est aussi à cette date que les salles de spectacle pourront être remplies à pleine capacité en Ontario. Les deux provinces estiment que la situation sanitaire s'est améliorée au cours des dernières semaines et qu'il faut permettre à la population de souffler un peu 2 ans après le début de la pandémie.
Et on souffle aussi en Suisse, Piran, depuis mercredi, la quasi-totalité des mesures sanitaires sont levées.
Plus de certificats Covid pour entrer au restaurant, plus de masques au cinéma ou dans les grands magasins, plus de tests pour aller faire la fête en discothèque et ce dès minuit. Le gouvernement l'a souligné, la situation épidémiologique ne met plus en péril le système hospitalier, c'est là son critère de référence. Il lève donc toutes ces mesures d'un coup. Le port du masque reste toutefois obligatoire jusqu'à fin mars dans les transports publics et les établissements de santé. De même qu'un isolement de 5 jours au moins pour les personnes positives.
Oui, c'est donc un sentiment de soulagement qui prédomine chez vous, même si la Suisse n'a pas connu de mesures aussi strictes qu'ailleurs en Europe ces 2 dernières années.
Oui, très clairement, les gens saluent ce début de retour à la normale. Ils n'ont d'ailleurs pas attendu longtemps pour le célébrer. Il est 00h01 à l'entrée d'un bar lausannois où le Cerbère peut déposer les armes.
J'arrête de contrôler et on va faire la fête sans masque, sans restriction et ça va être oufissime.
C'est un grand plaisir parce qu'enfin on va pouvoir voir nos visages sourire, on va pouvoir être content.
Franchement, ça a tout changé. Pouvoir retrouver tout le monde, d'être en bonne communauté, de pouvoir rigoler, de pouvoir s'amuser sans passe sanitaire, sans se poser de questions. Et ça, vraiment, ça fait plaisir.
Sans se poser de questions, on sent bien chez ces jeunes noctambules l'impatience de retrouver une forme d'insouciance.
Alors question, qu'en est-il maintenant du côté des autorités, Pierron ?
Du soulagement aussi du côté du ministre de la Santé après ses 71 conférences de presse consacrées au coronavirus, de pouvoir cette fois annoncer une bonne nouvelle, même s'il prône l'humilité face à cette pandémie. Comprenez que si la situation l'exige, le gouvernement n'hésitera pas à prendre de nouvelles mesures.
Et on notera que ça va dans le bon sens aussi en Belgique, Jacques, même si on maintient encore le certificat Covid, fini le code rouge. Le baromètre sanitaire est passé à l'orange, ça signifie une série d'assouplissements.
L'obligation de télétravail à domicile est supprimée, il n'y a plus de restrictions sur le nombre maximum de clients dans les magasins. Dans les cafés et les restaurants, seul le personnel doit encore porter le masque et les discothèques ont repris leurs activités. Ces mesures et d'autres traduisent une évolution positive de la situation sanitaire. En une semaine, les admissions dans les hôpitaux ont baissé de 17% environ.
Voilà, et avant de se quitter, petit retour en Suisse pour un suivi avec vous, Pierron. Vous nous aviez parlé de cette votation sur la restriction de la publicité pour le tabac. Eh bien, elle a passé la rampe dimanche dernier.
Et c'est rare que des initiatives populaires l'emportent. C'est au fond quand le peuple veut pousser ses autorités à aller plus loin. Et là, il a donc jugé que les restrictions proposées par le Parlement étaient insuffisantes. Il a donc opté pour l'interdiction quasi totale prônée par l'initiative des milieux de la prévention. Sera donc interdite toute publicité pour le tabac là où des enfants et des ados peuvent la voir. Cela touchera la presse écrite et les festivals, par exemple. De là à dire que le peuple a été moins sensible que le Parlement au lobbying des cigarettiers, fortement
directement implanté en Suisse. Il n'y a bien sûr qu'un pas.
Merci Pierre-Anne Chauffaille, et merci à tous ceux qui ont participé à l'Accent des Autres. C'est une collaboration entre Radio-Canada, RFI, France Inter, la RTBF et la Radio-Télévision Suisse. Et l'Accent des Autres revient bien sûr, comme d'habitude, la semaine prochaine.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
En février et en tout temps, célébrons l'histoire des communautés noires du Canada. Chaque année, ils sont des centaines provenant de la République démocratique du Congo, d'Haïti, de Burundi ou encore du Cameroun à obtenir leur résidence permanente au Canada. Ont-ils fait le bon choix ? Être noir au Canada est encore synonyme d'appauvrissement, de discrimination et le gouffre s'est élargi en deux décennies. Comment éradiquer le racisme structurel ? Est-ce possible de promouvoir la pleine participation des francophones issus de la diaspora africaine et antillaise au sein de l'establishment francophone du Canada? Une édition spéciale tout au long du mois de février, en partenariat avec la table du mois de l'histoire des Noirs de la ville de Québec, mois de l'histoire des Noirs de la ville de Gatineau, Ciné Franco, histoire des immigrants francophones, Sophie Franc et son spectacle Festive Ebène, le théâtre de la vieille 17 et mosaïque interculturelle, de la Lito Music et Mondo Carnaval du Québec, RFI, France 24 et TV5 Monde. Et nos partenaires vous invitent à une série d'activités en mode virtuel. Découvrez leurs bons plans sur popourrichaud.com. En février et en tout temps, célébrons l'histoire des communautés noires du Canada. Des expériences qui ont façonné l'histoire des Noirs dans notre société. CUT 89,5 FM, chaque dimanche, de 11h à 13h. 35 ans, on est toujours bien ensemble.
Africa, the time is now. Wake up, Africa, the time is now. Masitanganeni, we got to live together. Masitanganeni, we got to live together.
Mois de l'histoire des Noirs, émission de clôture sur CUT 89,5 FM, Toronto. Place à l'histoire méconnue. Aujourd'hui, place à Africville, la communauté noire détruite par Halifax dans les années 1960. Aujourd'hui, Africville symbolise l'oppression subie par les Canadiens noirs, ainsi que les efforts déployés pour redresser les torts qui leur ont été causés au cours de l'histoire.
Des Noirs vivent à Halifax depuis aussi longtemps que la ville porte son nom. Ils ont contribué à construire la ville. Anciens esclaves, marrons, hommes et femmes noirs libres, ensemble, ils ont creusé ces rues et érigé ces charpentes. Faisant face au racisme, les Noirs se sont installés aux limites de la ville. Ils ont construit des maisons et fondé des familles. Ils ont créé leur propre école et les autres services que la ville refusait de leur fournir. Ils ont construit leur propre église, le cœur battant de la communauté. Les résidents d'Africville payaient des taxes, mais ils n'avaient pas d'eau courante, d'électricité, de rues pavées, ni d'égouts. La municipalité a préféré y construire des usines, des fosses d'épuration et une prison, puis a qualifié le village de bidonville. En 1962, le conseil municipal de la ville d'Halifax a décidé de raser Africville et prendre ses terres pour le développement industriel. Les bulldozers sont arrivés, tandis que les gens dormaient. Par 1970, le quartier a été démoli et ses résidents ont été relocalisés dans d'autres quartiers d'Halifax. Mais les gens qui vivaient à Africville s'y sentaient chez eux. Ils n'ont pas oublié. Une fois par année, nous allons à Africville pour nous réunir, planter nos tentes ou simplement étendre une couverture sur le gazon. Les enfants jouent, les gens rient, s'étreignent et se remémorent le bon vieux temps. Pendant 3 jours, notre communauté revit.
Right here, right now, every day. CIUT 89.5, the sound of your city.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, buena loco.
Adra ben la cosa, adra ben la cosa. Dingue dan,
dingue dan.
Écoutez la planète chanter.
Yeah. Moi je suis qui? Ouais.
De 2011 à 2021, ça fait déjà 10 ans. 10 ans d'engagement pour l'intégration économique des jeunes Canadiens noirs. 10 ans d'engagement pour le rayonnement de la francophonie ontarienne. 10 ans d'implication de la communauté pour la promotion d'équité sociale. 10 ans de lutte contre le racisme systémique et ses conséquences. 10 ans d'engagement pour un Canada inclusif avec l'égalité de chance. C'est une décennie de travail et de succès. Nul doute que des plus belles décennies sont encore devant nous. Oui, il faut s'entraider. C'est la loi de la nature. Mais une collaboration avec Sylvanie Lédor Fondation, c'est mieux pour réussir. Nous continuons d'avancer avec l'entrepreneuriat pour l'intégration économique. Soccer for Integration. Soccer for Social Cohesion. Le multiculturalisme, c'est notre force. Intéressant, hein? Sylvanie Lédor Fondation, Diversity Our Force. Implantée dans la ville reine du pays, Toronto, la ville la plus diversifiée au monde. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook de la Fondation Sylvanie Lédor. Par l'autorisation de la Fondation Sylvanie Lédor, je vous dis merci. Merci à vous d'être à nos côtés. Gouvernement du Canada, Patrimoine canadien, Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Express Toronto, CIUT 89.5. Merci pour votre support, M9 Média, Croix Rouge canadienne. Merci pour votre collaboration. Merci de votre fidélité. Encore et toujours, faisons la route ensemble. Let's take the world together.
Encore.
On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi faut-il se faire vacciner si on peut vaincre naturellement la COVID-19?
Les personnes vaccinées contre la COVID-19 sont protégées de cette maladie. Elles risquent donc moins d'avoir des symptômes ou de souffrir d'une maladie grave. L'ensemble de la population est susceptible d'attraper la COVID-19 et l'unique moyen de se protéger de cette maladie, c'est la vaccination. C'est la solution retenue aussi par toutes les provinces canadiennes et tous les pays à travers le monde.
Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.
Les fausses informations, tout le monde en parle.
Fake news.
Dans Info Intox, vous allez voir des exemples d'infox qui nous montrent que certains internautes sont parfois prêts à tout pour vous tromper.
C'est qui ça? Mais regarde, tu fais quoi? Oh, debout là-bas, là, debout.
Êtes-vous franglais ou êtes-vous francophone? En mars 2022, CUTFM, RFI et le partenaire vous invitent à célébrer le mois de la francophonie. Après plus de 2 ans à tourner en rond, cette 35e édition vous invite à bouger, à cadencer au rythme du monde de la francophonie. Concours, témoignages, débats, rencontres littéraires, cinéma, humour, des exclusivités et bien encore. Mois de mars à 2022, bougez pour changer son mal de place. Acteurs culturels, sociaux, éducatifs, devenez partenaire de la première radio de la ville de Toronto. Valorisez votre programmation de la semaine et du mois de la francophonie. Inscrivez-vous à notre programme officiel 2022. Envoyez-nous votre logo. Découvrez les modalités. Écrivez-nous immédiatement à popourri@cut.fm. Êtes-vous franglais ou francophone ? Nous sommes 300 millions de francophones dans le monde, alors il faut se parler. Et bougez avec Popourri Show sur CUT 89,5 FM. 35 ans déjà, on est toujours bien ensemble et ça va bouger.
Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.
Monsieur Molière s'engage à préparer le sieur Jourdain en vue d'une prestation qu'il donnera devant la marquise.
Car c'est d'amour dont il est question. Celui que je porte à Célimène.
Faites-moi le cheval.
Ah non, pas le cheval.
Je veux être au sommet de la perfection.
2022 est l'année de Molière, l'un des plus célèbres dramaturges français. Il est aujourd'hui l'auteur français le plus joué dans le monde. Pourquoi parle-t-on encore de lui 4 siècles plus tard? Quand et comment son œuvre est-elle arrivée en Afrique? Molière l'Africain, est-ce possible? Des éléments de réponse avec nos correspondants et comédiens en Europe et en Afrique tout au long de l'année 2022. Alors soyez-y. Popourri Show, 35 ans déjà. On est toujours bien ensemble.
CIUTFM, la première radio de Toronto, élue par le Now Magazine en 2021. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité.
En 2022, Popourri Show et CUTFM fêtent leur 35e anniversaire. Popourri Show, la seule émission en langue française, a renouvelé sa convention de partenariat avec Radio France Internationale. 2022 s'annonce une année riche en événements et en surprises.
Wake up, Africa, the time is now. Wake up, Africa, the time is now. Masitanganeni, we got to live together. Masitanganeni, we got to live together.
Moins de l'histoire des Noirs, édition 2022. Émission de clôture mettant en vedette les voix des sans-voix avec Dr Amal Madibo, professeur agrégé au département de justice sociale en éducation, Université de Toronto, qui nous présente son livre « Blackness and la francophonie ». Table ronde autour du même livre le mardi 1er mars 2022 à 17h sur Zoom. Avec Suzanne Huot, professeure adjointe, University of British Columbia, Dr Emmanuel Pichon-Wortzmann, directrice du CREFO, Université de Toronto, Benoît Kungua, président du CIRCLID Ottawa, Louisa Véronis, Université d'Ottawa. Le mardi 1er mars, à ne pas manquer, à 17h, il faut absolument vous inscrire sur Eventbrite. Visitez le site du CREFO ou popourrichaud.com. Docteur Amal Amadibo, originaire du Soudan, a étudié en France, au Canada, où elle a étudié et elle a enseigné au Collège Glendon, Université York, à l'Université de Calgary et aujourd'hui à OISI, Université de Toronto. Docteur Amadibo sera des nôtres vers 12h35 à ne pas manquer. Et toujours du CREFO, la troisième saison du podcast « Quoi de neuf ?» Les Cafés du CREFO changent un peu de format sous la direction du professeur Laura Bisaillon. Et oui, cette troisième saison « Quoi de neuf ?» tourne autour du thème de la production et de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. La liste de tous les invités est déjà disponible sur le site du CREFO ou encore aller visiter popourichaud.com. Vous y retrouverez tous les liens. Nous recevrons professeur Bisaillon très prochainement, c'est promis. Mois des Noirs, mois de l'histoire des Noirs, édition 2022. Voici quelques faits saillants selon certaines régions métropolitaines lors du recensement de 2016 de Statistique Canada. Montréal, 2016, un peu moins d'un enfant noir sur cinq vivait dans un ménage en situation de faible revenu, soit la plus petite proportion parmi les 8 régions métropolitaines du Canada. À Toronto, 2 hommes noirs sur 10 détenaient un baccalauréat ou un grade supérieur par rapport à environ 4 hommes sur 10 dans le reste de la population de cette région. Ottawa-Gatineau, 4 hommes noirs sur 10 détenaient au moins un baccalauréat, une proportion similaire à celle des autres hommes vivant dans cette région. Mais il existait des écarts importants pour ce qui est des salaires annuels médians. Vancouver, dans cette région, les femmes noires et les autres femmes avaient des salaires annuels médians similaires. Il y avait un écart de 20 000 dollars entre les salaires annuels médians des hommes noirs et ceux des hommes dans le reste de la population. Chez les femmes, cet écart n'était pas aussi important, soit 8 000 dollars. Il était à notre antenne après les émeutes suite à la mort de George Floyd il y a 2 ans. Et pour nous présenter sa chanson, On en a assez. Le Flo Franco revient aujourd'hui avec plusieurs projets et nouveautés après 2 ans de confinement. Et oui, il a lancé son nouveau single, son nouveau titre, le 11 février dernier, Noirceur absolue. Une façon pour remettre les projecteurs sur le mouvement de la vie des Noirs contre Black Lives Matter. Le Flo Franco, un artiste issu de la région d'Ottawa-Gatineau, d'origine haïtienne, il cherche à faire voyager son auditoire, parlant du hip-hop moderne comme le drill, le rap, jusqu'aux sonorités des Caraïbes telles que le soca, le reggae fusion, la musique de ses origines haïtiennes, le compas. Il décrit son style comme étant de la pop urbaine multicolore. Et nous sommes très heureux de le recevoir, madame, monsieur, Noirceur absolue. Son nouveau titre, Le Flo Franco, en exclusivité sur CUT 89,5 FM, Popourri Show. 35 ans déjà, on est toujours bien ensemble.
Ce soir, venez nous voir en prison. Ils veulent prendre nos vies sans raison. Expérience d'une vie noire.
We are in a state of emergency.
Mais yo, peu importe what they say.
And what they say,
peu importe what they do.
And what they do.
Et fier, je resterai.
Ma noirceur.
Même si tu l'as pas voulu. Ma noirceur. Elle est absolue. Stress, quand t'es si que je t'avais les gars, et c'est qu'on pas le sang-froid, et c'est que mes gars jouent pas, je lui dis excuse, mais still till this day, quand t'es noir dans le système, avec toi des plaies, lumière bleue et rouge, et c'est plus qu'un signal, c'est un traitement spécial, profilage racial, violence totale, on est même plus debout, 8 minutes et 46, genoux sur mon cou, non ça pas de sens, mais yo on est encore là, peu importe ce qu'ils font ou disent, on restera, car dans mon ADN, non y'a pas de pauvreté, y'a la fierté de la loyauté, et de la royauté, y'a du goût, y'a du style, de la richesse, de la force, y'a de l'honneur, malgré notre vécu atroce, y'a de la culture, y'a de la passion, y'a de la vie, y'a de la beauté, y'a de l'unité, peu importe ce que t'en dis, so, yo, peu importe
what they say,
peu importe what they do,
et what they do,
moi et fier, je resterai,
uh-huh.
Ma noirceur, même si tu l'as pas voulu, ma noirceur, elle est absolue.
Ferme les yeux et tu vois tout noir. Réactive ton troisième œil et tu vas tout voir. Après 400 ans, pourtant on est tous là. Covid est venu ravager, fais attention, touche pas. Noirceur absolu, fais attention, touche pas. Regarde les zombies, fais attention, bouge pas. L'homme noir est Dieu dans l'astral et les bois. J'ai ici fait piquer 2 fois comme AstraZeneca.
Triple blackness, black on black on black. Mélanine dominant comme ça, y'a pas d'attaque. Noir est fier car le noir génère la lumière. La vibration de ma voix est le résultat de ma plumière. Méditation au soleil. La journée commence au lever du sommeil. Donc tout commence et finit par la noirceur. Le soleil brûle donc il brillera toujours par sa noirceur. Shine.
Peu importe what they say.
Et what they say,
peu
son.
Peu importe what they
do. Et what they do.
Et fier, je resterai.
Ma noirceur. Ma noirceur. Ma noirceur. Même si tu l'as pas voulu. Ma noirceur. Ma noirceur. Ma noirceur. Elle est absolue.
Ils veulent nous garder stock, contrôler stock. Le hood supporte, mais la police choque. J'ouvre la télé, un autre jeune noir shot. Sa mère a pleuré, vacances payées pour le corps. On pousse à être aimé par tous ceux qui sont effrayés. Quel méton on a créé, nos concepts ils ont pillé. On dit notre connexion du ciel étoilé. Vois comment le diabis il veut tout contrôler. Bienvenue au royaume. Ma reine black skin, red chimique sur la peau. Why you keep asking? Gingembre et lime, pas besoin de vaccine. Easy set goal, et toi you keep acting. Trop tête pour la mélanine. Les ports déguisés ont peur comme si l'Halloween. Ma clique est woke sans caféine. Noir sera absolu pour mon teint, je préfère limousine.
Peu importe what they say.
Et what they say,
peu importe what they
do. Et what they do.
Et fier, je resterai.
Ma noirceur. Ma noirceur. Ma noirceur. Même si tu l'as pas voulu. Ma noirceur. Ma noirceur. Ma noirceur. Elle est absolue.
So if you want us to do better, then damn it, you do better.
Le Flo Franco, c'est bien vous?
Ah,
bonjour, Eric Adair de CUTFM. Et je rappelle aux auditeurs que vous êtes à Ottawa. Est-ce que vous êtes en sécurité? Est-ce que le convoi est parti de chez vous?
Oui, je suis en sécurité. Dieu soit loué. Mais moi, je suis plutôt à l'est de la ville, donc je suis quand même assez loin du centre-ville. Le convoi se passe vraiment au centre-ville. Donc je suis quand même assez loin et sécure. Donc ça va. Est-ce que le convoi est terminé? Pas officiellement. La police est en train de gérer encore ce qui se passe au centre-ville. Donc je sais qu'il y a eu des évacuations. Donc ça continue d'évoluer.
Alors nous sommes
fini en totalité, quoi.
Oui, nous sommes très heureux de vous recevoir en tant qu'artiste invité dans cette édition spéciale, émission de clôture du mois de l'histoire des Noirs. Et pour ce mois, ouais, que certains trouvent, on devrait peut-être poursuivre cette occasion à l'année longue. D'autres trouvent que le mois de février est trop court. Alors, vous venez de lancer un nouveau single, un nouveau titre sorti le 11 février, Noirceur Absolue, pour remettre les projecteurs sur le mouvement de la vie des Noirs compte, Black Lives Matter. Et pour ceux et celles qui n'étaient pas au courant, vous et moi avons été témoins des manifestations monstres, des émeutes consécutives à la mort de George Floyd il y a 2 ans. D'ailleurs, vous étiez à cette antenne et vous avez même donné un témoignage assez émouvant. En 2 mots, pourquoi il est important de retourner le fer dans la plaie avec ce titre, Noirceur Absolue?
Pourquoi c'est important? Parce que mon dernier titre, la dernière fois qu'on s'est parlé, je crois qu'on discutait de mon titre qui s'appelle « On en a assez », qui est une espèce de cri d'alerte, si on veut, qui fait place à la réalité que les gens de notre communauté noire vivent au quotidien, d'histoire de racisme et tout ça. Et puis, cette fois-ci, avec « Noirceur Absolue », le but était vraiment de mettre de l'avant notre fierté et notre résilience, et souligner le fait que peu importe ce qui se passe, peu importe les choses, les injustices qu'on ne cesse de vivre depuis des décennies, rien ne change le fait que la communauté noire restera présente, résiliente, elle continuera d'avancer, elle continuera de persister. Donc pour moi, c'était important en fait de m'exprimer puis de démontrer ma fierté. Je pense que c'est sûr que le cri d'alerte est important, mais je pense que de s'affirmer en tant que fier et puis résilient, c'est tout autant important. Donc, c'était un peu l'optique avec ce titre.
Oui. Il y a eu beaucoup de débats dans la communauté francophone, peut-être moins que dans d'autres communautés. Est-ce que vous avez vu un changement, un réveil au niveau des attitudes, au niveau, surtout au sein de l'establishment francophone, franco-ontarien, dans la région d'Ottawa?
Est-ce que j'ai vu un changement par rapport à quoi? À l'inclusion?
Oui.
Ou par rapport à...
suite aux manifestations, suite au cri du cœur, suite à votre chanson, est-ce que les gens ont été sensibilisés?
Ouais, je dirais que c'est sûr que les gens de notre communauté franco-ontarienne est définitivement sensibilisés. Je pense que notre communauté quand même est une belle communauté dans le sens où il y a définitivement place à l'inclusion et les gens veulent être inclusifs et les gens veulent être des vrais alliés et les gens cherchent à comprendre leur rôle dans tout ça, dans quand on parle du racisme systémique. Donc oui, je peux confirmer que j'ai pu voir une espèce d'effervescence, d'ouverture d'esprit encore plus grande que la normale, puisque les gens ont vraiment voulu avoir des conversations franches, honnêtes, poser des questions dans le but de bien comprendre. Donc c'est des belles choses que j'ai pu voir depuis, comme vous avez dit, les grandes manifestations là qui ont eu lieu suite à la mort de George Floyd. Donc c'est le fun de voir, c'est le fun à entendre. Et puis, je vous dirais que la bataille n'est pas encore gagnée. Je pense qu'il y a encore des conversations et des choses qui doivent être faites au niveau systémique pour qu'on se retrouve dans un autre espace complètement différent. Mais je suis content de pouvoir dire que je vois qu'il y a des choses qui commencent à prendre place pour justement permettre ceci.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que la semaine dernière, nous avons reçu une fondatrice de cette comment ça s'appelle? Il y a un salon du livre pour les Afro-Canadiens maintenant dans la région d'Ottawa, et il y a Mosaïque interculturelle et tous ces gens. Il y a eu un article là il y a deux jours sur Radio-Canada qui remet en question la signification et le besoin de la diversité. Et ce qui est drôle, sur des pages des réseaux sociaux, on voit des francophones très connus, y compris des professeurs qui sont maintenant à la retraite, qui remettent en question la diversité au sein de la société d'État. Imaginez. Alors, et puis ce qu'on voit que nous venons de vivre, ce n'était pas seulement pour les raisons sanitaires, mais aussi il y avait des slogans très racistes, des slogans mettant à l'exclusion des immigrants. Enfin, ils avaient toute une panoplie de revendications. Et donc, on peut se poser des questions. Est-ce que le Canada en fait assez pour justement combattre ces préjugés qui sont encore très ancrés dans certains milieux, y compris dans la francophonie?
C'est une super bonne question. Écoutez, moi, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas la réponse à tout. Est-ce que le Canada en fait assez? Peut-être que non. Je pense que c'est une question de perspective. Selon moi, je pense que il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est comme ça que je vais vous répondre. Puis je pense que, comme j'ai dit, de ma part, en fait, dans ma communauté, dans les places où je me retrouve, je vois que l'intention est bonne et je vois qu'il y a des choses qui sont mises en place pour changer la donne, comme on dit. Mais je pense qu'on peut toujours faire plus. Je pense qu'on est loin d'être là où ce qu'on est. Je pense que le Canada veut s'améliorer, veut rectifier ses torts. Si on regarde aussi ce qui s'est passé avec la communauté PNMI, quand on parle de la fête du Canada, par exemple, tout ce qui s'est passé l'été dernier avec la couleur orange et tout ça. Donc, je pense que la volonté est là. Je pense que les discussions doivent avoir lieu, commencent à prendre place pour justement changer la donne. Donc, moi, je vous dirais qu'il y a toujours place à mieux faire. Puis je pense que c'est ça. On doit continuer de travailler, on doit continuer d'avoir ces conversations, on doit continuer de pousser les réflexions pour un monde meilleur, là, si on veut.
Alors, parlez-nous un petit peu de vos acolytes, parce que c'est une très belle réussite, hein. On voit que vous avez DJ Unipied, qu'on connaît bien. Parlez-nous un petit peu, justement, des gens qui vous entourent sur ce titre.
Sur ce titre, c'est ça, c'est DJ Unpierre, dans le fond, qui est un grand ami à moi, qui fait des sons, beaucoup de spectacles, tout ça. C'est lui qui est derrière la production du titre, donc on s'est réunis. Puis DJ Unpierre, ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on a vécu les manifestations durant l'été pour la mort de George Floyd, DJ Unpierre est une personne de communauté blanche, de un, puis juste pour vous montrer à quel point on est vraiment proche, il voulait vraiment venir avec moi. Donc on a vraiment vécu toute cette manifestation ensemble, puis c'est quelque chose qui nous a travaillé. Donc on s'est un peu rejoint, puis on se disait que c'était, en tout cas pour moi, j'avais besoin d'exprimer comment j'ai vécu tout ça. Donc le titre Noirceur Absolue a vu la lumière du jour, puis j'ai été voir un Pierre, puis il m'a créé cette production. Et puis ensuite sur le titre, on a été chercher DJ Scorpion, qui est un autre acolyte de longue durée. C'est vraiment avec lui que je partage la scène. Il est venu faire du scratching sur la chanson, comme vous entendez. Et puis, il y a The Incredible Pack, qui sont des frères, des amis à moi de longue durée aussi, de la région d'Ottawa, d'origine haïtienne. Et puis, c'est deux gars que j'ai fait un titre avec, Bal Exotique. Je sais pas si vous vous souvenez.
Oui, oui.
En fait, on s'est retrouvés pour ce nouveau son, donc de revenir en force là pour exprimer notre fierté.
Et je rappelle aux gens qu'ils peuvent avoir accès à votre biographie sur votre site leflowfranco.com. Et là, vous retrouverez tout l'univers de notre invité. Vous y découvrirez ses albums, sa passion pour le rap francophone dès l'âge de 14 ans et ses nombreuses nominations plutôt au gala des Tri Or, où c'était en 2019, vous étiez lauréat de la catégorie initiative artistique grâce à ces soirées de spectacles à concerts haute vibration. Est-ce que la crise sanitaire a eu un impact sur votre carrière artistique, le Flow Franco?
C'est sûr qu'il y a eu un petit impact au niveau d'amener plus de défis, si on veut, pour pouvoir se retrouver dans les salles de spectacle, venir à la rencontre du public. Donc oui, il y a eu des défis. Par contre, ce qui était intéressant pendant la pandémie, c'est que ça a un peu mis toute la communauté culturelle, ça nous a un peu forcé à trouver des solutions, puis à figurer ensemble comment on peut garder notre culture en vie pendant cette pandémie. Donc moi et mon équipe, on a pu vendre des spectacles virtuels, où c'est vraiment, j'ai pu louer une salle, j'ai performé pour la caméra. Ensuite, c'est ce qu'on a offert aux diffuseurs qui ont pu diffuser ça dans leur communauté. Ça m'a permis quand même de venir à la rencontre des jeunes pour offrir des ateliers d'écriture dans les écoles, des ateliers sur comment trouver son identité artistique, des conférences où on discute justement de la vie des Noirs contes. Donc, on est quand même resté actif pendant la pandémie.
Oui.
C'est vraiment grâce à avoir des bonnes discussions entre diffuseurs et équipe de booking pour figurer comment qu'on peut faire de quoi qui est intéressant pour tout le monde. Et puis, je suis content de pouvoir dire que je suis parmi les quelques-uns qui ont réussi à rester actifs et puis à retrouver son public quand même, même si on est en virtuel.
Nous sommes très fiers de vous. En tout cas, je rappelle aux gens encore une fois, Noirceur Absolue qui vient d'être lancé aujourd'hui en exclusivité sur CUT 89,5 FM, une chanson pour exprimer clairement que peu importe les injustices que leur communauté vive, leur fierté, tout comme leur mélanine, restera absolue. Et vous retrouverez tous les détails et les liens de notre invité sur notre site popourichaud.com. Et vous avez un projet à nous annoncer en primeur. Est-ce que vous avez des choses qui se préparent, qui se trament pour l'année 2022-2023?
C'est sûr que pour le popourri, il faut annoncer ses primeurs, absolument. La pandémie a permis de beaucoup créer. Je pense que j'avais besoin de beaucoup d'écrire pour rester sain, comme on dit. Donc, du coup, il y a un album qui s'est manifesté et puis l'album verra la lumière du jour, je vous promets, d'ici septembre 2022. Donc, comme vous le voyez, là, depuis janvier, on se met à lancer des nouveaux titres, histoire de piquer la curiosité et remettre l'eau à la bouche, comme on dit. Donc, en janvier, on a lancé le titre qui s'appelle « On est là ». Et puis en février, pour souligner le mois de l'histoire des Noirs, on lance Noirceur Absolue. Et puis dans les mois à venir aussi, il y a d'autres singles qui sont prêts. On planifie bien les choses. Et puis le but ultime, c'est septembre 2022, le nouvel album sera là. Donc c'est sûr qu'on va se reparler soit avant ou à la limite, on va se reparler en septembre quand l'album va sortir.
Et en primeur sur CUTFM.
voilà, en primeur.
Alors, et nous allons terminer cet entretien avec votre chanson que nous aimons, On en a assez, et c'est un titre très fort aussi. Le Flow Franco, artiste, éducateur et directeur artistique, félicitations pour ce beau cadeau que vous nous offrez aujourd'hui. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, bon mois de l'histoire des Noirs, et que la force soit toujours avec vous.
Merci, puis un gros merci à vous, à l'équipe. On est ensemble, ça fait longtemps. Vous me suivez, vous me donnez des belles opportunités. Donc, je vous apprécie. Force à vous aussi. Bon mois de l'histoire des Noirs. Et puis, ce n'est que un à tantôt et pas un au revoir. On se reparle très rapidement.
Au revoir.
Au revoir.
On en a assez, racisme et sexisme. On en a assez, acte d'égoïsme. On en a assez, corruption dans la police. On en a assez. Est-ce que ça va changer ou ça restera ici? Sérieux est le danger, trop de cris dans la nuit, blanc et noir ennemi. Blessé et enragé, regard intense engagé. Nos jeunes sont dans les rues, petits enfants dans du rap, une ratitude. Nouvelle à la télé, controverse habituelle. Une jeunesse menottée, notre fierté est devenue rebelle. Un jugement erroné, une personne condamnée, fut se emprisonnée. Année après année, yo, oh, non. On en a assez, on on en a assez. Racisme et sexisme, on en a assez. Acte d'égoïsme, on en a assez. Corruption dans la police, on en a assez.
Regarde, il se passe de quoi. On le sent dans l'atmosphère. Ne me demande pas pourquoi on déteste la loi. Son visage est par terre. On crie à l'aide. L'amour n'est plus le remède. La honte est rendue le maître. En dehors de mon aide, c'est la haine qui succède. Action et conséquence. Une famille qui porte le deuil. Petit pays en souffrance. Moi et l'âme sur ma feuille. C'est rendu moi contre toi, toi contre lui, lui contre elle. Nous contre vous, c'est la guerre. Une haine qui coûte cher. Et
on en a assez. On en a assez. Racisme et sexisme. On en a assez. Acte d'égoïsme. On en a assez. Corruption dans la police. On en a assez.
Violence erronée. Fierté menottée. Futur emprisonné. Yo, on en a assez. Tenez de crier. On est fatigué. On est écœuré. Yo, on en a assez.
On en a assez. On en a assez. Racisme et sexisme. On en a assez. Acte d'égoïsme. On en a assez. Corruption dans la police. On en a assez.
Février, mois de l'histoire des Noirs au Québec.
Saviez-vous que le premier Noir connu au Canada se nommait Mathieu d'Acosta et faisait office d'interprète auprès des Amérindiens en 1606, deux ans avant la fondation de Québec par Champlain? On connaît peu de choses sur d'Acosta, mais cet homme a sans nul doute favorisé le rapprochement entre les peuples amérindiens et français avant même l'établissement permanent de ces derniers dans la vallée du Saint-Laurent.
Un message de Stratégie Carrière avec la participation financière du gouvernement du Québec.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Février, mois de l'histoire des Noirs.
Saviez-vous que plusieurs Québécois d'origine haïtienne ont contribué à la réalisation de plusieurs édifices importants à Montréal, comme le complexe des Jardins, le complexe Guy Favreau, la maison de Radio-Canada, le palais des congrès, le Biodôme et aussi le métro de Montréal? Les Haïtiens ont aussi apporté une contribution appréciable dans d'autres secteurs, comme celui de l'ingénierie, des affaires économiques, sociales et politiques.
Un message de Stratégie Carrière avec la participation financière du gouvernement du Québec.
RFI, la radio mondiale.
Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien, décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats Nawa Doumbia du Mali. Nombreux ont été les artistes que le concours Découverte a permis de faire éclater au grand jour. En 82, un Congolais du nom de Zao fit rigoler tout un continent en se parant des décorations de l'ancien combattant.
Wake up,
Africa, the time is now. Wake up, Africa, the time is now. Must be done on any. We got to live together. There must be Tanganyika. We got to live together.
Émission de clôture, le mois de l'histoire des Noirs, 35e édition, sur CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto. En février et en tout temps, célébrons l'histoire des communautés noires, aujourd'hui et tous les jours. Ce mois met l'accent sur la reconnaissance des contributions quotidiennes qu'apportent les Canadiens connus, méconnus, partout au pays et dans le monde. L'histoire et les réalités des Noirs francophones en Ontario et au Canada, toujours méconnues. Peu importe où vous vivez, nous vous invitons à vous informer sur les communautés, sur les façons dont elles continuent de façonner l'histoire de l'Ontario, du Québec, du Canada, en visitant notre site web popourishow.com. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre au Canada et dans le monde. Mille merci. Popourisho salue les réalisations et le progrès accomplis par plusieurs paliers de gouvernement, des organismes, des employeurs francophones qui ont commencé à ouvrir les portes à la diversité et aux orientations sexuelles des personnes d'ascendance africaine et antillaise. Selon les nombreux commentaires reçus depuis le début de ce mois, il y a encore du chemin à faire pour une plus grande représentativité dans l'industrie du divertissement, du cinéma, des médias francophones. Combien d'éditeurs en chef ou des chefs d'antenne avons-nous dans nos médias francophones? L'Express de Toronto, Le Métropolitain, TFO ou Radio-Canada? Pourquoi les Noirs sont invisibles dans ces secteurs? Pourquoi les enseignants noirs francophones de l'Ontario ont dû déposer plainte au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario contre leur syndicat, le syndicat des enseignants francophones de l'Ontario? Il y a 2 ans, 75 cinéastes, actrices et acteurs noirs ont envoyé une lettre ouverte au gouvernement fédéral pour demander la fin des politiques de racisme systémique et la reconnaissance du racisme anti-noir dans l'industrie audiovisuelle. Vous retrouverez le lien sur le site de Radio-Canada et le nôtre, popourishow.com. On en a assez, comme le dit bien notre jeune invité artiste, Le Flo Franco de la ville d'Ottawa. On en a assez. Je veux rendre hommage à Fabienne Collat, fondatrice de la Fondation Fabienne Collat, Montréal, organisme artistique à but non lucratif qui a pour mission de faire avancer l'éducation et l'inclusion de la diversité dans les arts, ainsi que de soutenir la création, la production, la promotion et la diffusion du cinéma, de l'art, de la culture au Canada et ailleurs. La Fondation est unique en son genre et organise au moins 7 festivals entre Montréal, Toronto, Halifax, Ville de New York et Port-au-Prince. Il ne faut pas attendre être toujours la 5e roue du carrosse pour avancer, comme dirait l'autre. Il n'y a rien de plus puissant que de voir des gens qui se croient invisibles retrouver leur estime de soi parce qu'on leur dit « tu as de la valeur ». Je vous invite au lancement du livre de la professeure, qui sera des nôtres, Amal Madibo de Oisy et le Créfo, Blackness and la francophonie, prévue pour le mardi 1er mars à 17h, par vidéoconférence, par Zoom si vous préférez, en partenariat avec l'Université d'Ottawa. Elle sera des nôtres vers 12h35. Que pense-t-elle de ce convoi de la liberté qui a assiégé la ville d'Ottawa pendant 23 jours? Quel avenir pour les universités francophones hors Québec à ne pas manquer? Mais pour tout de suite, le journal d'Haïti et des Outre-mer. Forte mobilisation en Haïti cette semaine, la colère des ouvriers et des industries exportatrices ne faiblit pas. Et les dernières nouvelles de la Guadeloupe, Popourichou, toute la diversité du monde sur votre fréquence.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causé Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33. Sur RFI.
Michael Ponge pour le rendez-vous Haïti et des Amériques. Bonjour Michael.
Bonjour Magali, merci. Il est 8h10 à Port-au-Prince. De nouvelles manifestations annoncées en Haïti. La hausse du salaire minimum mise sur la table par le gouvernement déçoit les ouvriers des industries concernées. On en parle avec Godson Pierre d'Alter Press qui nous attend à Port-au-Prince. La Colombie rejoint l'Argentine et dépénalise l'avortement. On va s'y arrêter. Avant de vous retrouver, Benoît Ferrand pour le journal de la première. Un nouveau vaccin contre le Covid arrive en Guadeloupe.
Novavax, un vaccin classique sans ARN messager, ce qui devrait en principe le rendre plus acceptable, mais nous verrons tout à l'heure que ce n'est pas encore gagné.
À tout à l'heure, Benoît, et bienvenue à tous.
RFI à Port-au-Prince. 89.3 FM.
Réuni dimanche en Conseil des ministres, le gouvernement haïtien pensait sans doute apaiser, voire peut-être même éteindre la gronde sociale qui se fait entendre depuis plusieurs jours dans le pays. C'est peine perdue. Les ouvriers de l'industrie de la sous-traitance textile qui ont manifesté ces deux dernières semaines sont loin, très loin d'être satisfaits par les annonces de hausse de salaire minimum faites hier. Il faut dire que cela fait 3 ans que le chiffre n'a pas bougé d'une virgule. Alors forcément, la revalorisation est très en deçà des attentes, Amélie. Baron.
Sur le papier, l'augmentation de 37% du salaire minimum pour les ouvriers des industries exportatrices peut sembler généreuse, mais cette révision salariale intervient alors qu'Haïti a connu une inflation annuelle de plus de 20% chacune de ces 3 dernières années. Le syndicaliste Dominique Saint-Éloi déplore la paupérisation des travailleurs haïtiens.
S'il y avait une pichette, il faut pas oublier
que la vie est devenue plus chère et il ne faut pas oublier que, en plus de tout cela, le gouvernement a augmenté les prix des produits pétroliers. Le coût des transports a doublé, le prix des produits de première nécessité a doublé. Les ouvriers ne peuvent pas vivre avec 685 gourdes par jour. Notre revendication à 1500 gourdes est raisonnable et on la demande parce que cela fait 3 ans que les patrons punissent les ouvriers avec des salaires de misère. Alors que dans le même temps, eux bénéficient de privilèges de l'État. Ils ont des franchises douanières et des exonérations fiscales.
Et puis encore, ils bénéficient des exonérations fiscales.
L'autre avantage des entreprises exportatrices est de signer en dollars des contrats pour le marché américain, mais de payer leurs ouvriers en gourdes, la monnaie locale qui a perdu plus d'un tiers de sa valeur depuis 3 ans. Le nouveau salaire journalier a été fixé lundi à 685 gourdes, soit seulement 73 centimes d'euros de l'heure. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Et c'est donc insuffisant aux yeux de beaucoup. Bonjour Godson Pierre.
Bonjour Michael.
Rédacteur en chef du site Alter Press. Vous revenez évidemment sur ce dossier en une, Godson. Hausse jugée trop faible, si bien que la mobilisation va se poursuivre.
Tout à fait, Michael. La Centrale nationale des ouvrières et ouvriers haïtiens, CNOA, annonce en effet pour demain, jeudi et pour vendredi également de nouvelles manifestations, de nouvelles journées de mobilisation contre un salaire jugé crasseux. Hier, les ouvriers du parc industriel de Caracol au nord-est du pays ont observé un arrêt de travail en signe de protestation contre l'ajustement insatisfaisant pour eux du salaire minimum journalier.
Tout autre chose, Godson. On en parlait hier dans notre rendez-vous. La République dominicaine a lancé la construction d'un mur à la frontière avec Haïti dimanche. Y a-t-il des réactions côté haïtien?
Eh bien, le ministère des Affaires étrangères prend acte selon les premières réactions rapides. Des organisations de défense de droits des migrants, notamment le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés, GAR, ont déjà eu à exprimer leurs préoccupations face à la construction de ce mur qui, selon elles, risquerait de briser les liens de bon voisinage entre les deux pays. Elles ont toujours plaidé de préférence en faveur d'un dialogue franc entre les autorités de la République dominicaine et d'Haïti pour trouver une solution commune aux problèmes qui affectent les relations entre les deux nations. Il y a un an, 200 personnalités et institutions du continent avaient adressé une lettre ouverte au président dominicain pour lui exprimer que la construction de murs frontaliers est inacceptable dans la région.
Enfin, la mort du docteur américain Paul Farmer, c'est un nom qui résonne particulièrement en Haïti, Godson.
En Haïti, où c'est depuis hier la consternation, il y avait une branche haïtienne de l'organisation humanitaire qu'il avait fondée, Zami La Santé a été fondée en effet au début des années 1980 pour répondre aux besoins de santé dans la communauté rurale de Kange, dans le plateau central à l'est du pays, et a mis en place également l'hôpital universitaire de Mirbalais dans la même région, doté d'une capacité de 300 lits. Zami La Santé est un réseau de 15 cliniques et hôpitaux à travers le plateau central et l'Artibonite. Cet organisme est le plus grand fournisseur de soins de santé en Haïti, en dehors du gouvernement haïtien, avec lequel d'ailleurs il collabore étroitement. Plus de 1,3 million de personnes bénéficient des services de l'organisation à travers le pays.
Et le Premier ministre Ariel Henry sur Twitter salue un philanthrope, un grand ami d'Haïti dont les œuvres continuent à profiter à la population. Merci Godson Pierre, tout ça est à lire sur votre site Alter Press. Haïti qui fait toujours partie de la liste des 10 pays dans le monde les plus touchés par la détention préventive prolongée selon les derniers rapports publiés par le Bureau intégré des Nations Unies. On en fait souvent mention après vous avoir emmené il y a quelques semaines dans la prison des Gonaïves. Je vous propose aujourd'hui de nous rendre à celle de Jacmel sur la côte sud. Autre lieu, même constat, des détenus qui s'entassent en attendant des jugements qui ne viennent pas, des familles qui se désespèrent, conséquence d'un système judiciaire à la peine qui s'est intensifié avec une grève des avocats du barreau local qui perdure maintenant depuis des mois. C'est notre dossier du jour, il est signé Gina Lafontan.
Si je suis ici, c'est pour mon fils Junior Gerdi Boncœur, accusé de vol, assassinat et de kidnapping. Moi, je sais qu'il est innocent. Il souffre de déficience mentale, donc je suis venue pour savoir quel va être son sort, parce que je n'ai pas d'argent pour payer les honoraires d'un avocat, afin d'assurer le suivi judiciaire.
Bon nombre d'Haïtiens entassés dans les prisons qui font déjà face à l'insécurité sociale, alimentaire, économique et politique sont aussi confrontés à une insécurité judiciaire. Dans la prison civile de Jacmel, par exemple, sur 609 détenus enregistrés, 531 sont en détention préventive prolongée. Une situation qui interpelle l'officier des droits humains, Maître Rameau Collin.
Beaucoup d'arrestations sont effectuées de manière arbitraire et illégale au niveau de la juridiction de Jacmel. Parfois sans mandat d'amené, même si la personne n'est pas en situation de flagrant délit. On peut même vous arrêter avec un simple mandat de comparution, comme c'est le cas d'un détenu que j'ai rencontré ce matin. Arrêté en 2019, il a déjà passé 28 mois en prison sans voir un juge, comme le stipule la loi haïtienne.
Pour dénoncer les juges impliqués dans des cas de corruption, le barreau de l'ordre des avocats de Jacmel a voté à l'unanimité la décision d'observer une dispense de plaider depuis le mois d'août 2021. Ce mouvement accroît bien sûr le problème de surpopulation carcérale et de précarité dans laquelle vivent les détenus, mais pour le bâtonnier de l'ordre, Maître Magdala Joseph, l'urgence est de dénoncer les juges corrompus qui gangrènent non seulement la profession d'avocat, mais aussi le système judiciaire dans le département du Sud-Est.
Du Pérou au Canada, la situation revient peu à peu à la normale. À Ottawa, nous vous en parlions hier, la police a mis fin à l'occupation du centre-ville de la capitale par des centaines de poids lourds et leurs sympathisants à 23 jours de mobilisation pour réclamer la levée des mesures sanitaires qui ont poussé les autorités à utiliser pour la première fois depuis sa création, une loi sur les mesures d'urgence afin de débloquer le centre-ville d'Ottawa. La crise terminée, c'est après coup que les parlementaires, hier, ont approuvé le recours à ce dispositif. Positif inédit, Pascal Guéricola.
La situation est calme à Ottawa, mais le Premier ministre Justin Trudeau répète qu'il faut éviter que les manifestants n'y reviennent, d'où la nécessité, selon lui, de cette loi des mesures d'urgence.
Nous sommes encore dans une situation précaire à travers le pays. Nous devons continuer d'être vigilants.
Yves-François Blanchette, le chef du Bloc québécois, ne croit pas que la situation requiert cette loi massue.
Je mets le premier ministre au défi d'identifier un seul endroit au Canada ou au Québec qui, pour l'instant, justifie l'existence de cette loi-là.
Cette crise a révélé que certains groupes d'extrême droite mettaient à profit le ras-le-bol de certains face à l'épidémie pour réclamer la dissolution du gouvernement. Stéphanie Chouinard enseigne les sciences politiques à l'Université Queen's.
Ça fait des années qu'on parle dans les Forces armées canadiennes de la présence de certains éléments d'extrême droite. Ben là, ils ont été mis au jour durant l'occupation. on les a arrêtés. Donc, il y a une prise de conscience, je pense, de la part de la société canadienne, qu'il y a une minorité qui est rendue ailleurs. Les demandes qui sont effectuées par ce groupe-là ne cadrent pas du tout avec le régime démocratique.
Les groupes de manifestants ne se trouvent plus près du Parlement, mais ils promettent de nouvelles actions. Pascal Guéricola, Québec. RFI.
Enfin, pour terminer, Marie, ce qui vous a interpellé aujourd'hui dans la presse chilienne, la photo d'une statue Moai empaquetée avec soin.
Oui, empaquetée, presque momifiée, Michael, pour la protéger avant son transport. Les ultimes préparatifs, titre El Mercurio, avant la restitution du Moai Taou à l'île de Pâques. Cette sculpture rupestre en basalte est la plus ancienne incarnation ancestrale de l'île et est au Musée national d'histoire naturelle. Et c'est donc un retour après 152 ans d'absence à l'issue de longues négociations entre les autorités chiliennes et les Rapa Nui. Pas simple de déplacer cette statue qui, avec son socle en béton, dépasse la tonne. Rien que pour la faire descendre du premier étage du musée, il a fallu construire une structure spéciale et un rail.
Rien que ça. Marie Normand pour la presse, merci.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Mickaël.
En Guadeloupe, l'arrivée de Novavax pourrait-elle véritablement changer la donne en matière de vaccination ?
Novavax, c'est ce nouveau vaccin classique, entre guillemets, sans ARN messager, ce qui devrait, espèrent les autorités, le rendre plus acceptable. Mais si l'on en croit ces quelques Guadeloupéens interrogés par Pascal Pétrine, ce n'est pas gagné.
On peut pas trouver un vaccin du jour au lendemain quand même. On peut pas prendre les deux autres ou les trois autres qui étaient machés, on envoie un nouveau vaccin, non. C'est obliger les gens à se faire vacciner, je ne suis pas d'accord.
Personnellement, je ne suis pas pour. Je pense qu'on a pas mal de médicaments auxquels on peut se soigner ici. Mais néanmoins, je ne suis pas encore convaincu en tout cas. Ça ne m'émoustille pas plus que ça en tout cas.
Bah, plutôt de la sécurité, quelque chose de nouveau, donc il faut essayer quoi. Ceux de Guadeloupe qui sont un petit peu réticents par rapport à tout l'ARN messager, ça peut être pour eux leur donner confiance.
Je n'ai jamais été tentée par le fait de me faire vacciner, que ce soit un nouveau vaccin ou pas, ça ne changera pas grand-chose, à mon avis. Donc je préfère faire confiance à mon système immunitaire qui jusqu'à maintenant ne m'a pas fait défaut.
Bon, j'ai le sentiment que ça vient un petit peu tardivement. Est-ce vraiment nécessaire ? C'est une grande question pour moi.
Voilà, ça n'est pas encore gagné en Guadeloupe. Direction la Guyane, où l'opérateur minier Oplata va reprendre son activité d'extraction d'or à la mine, dans la mine Dieu merci. Extraction arrêtée depuis septembre dernier. Olivier Damon.
Le salut d'Oplata est arrivé le mois dernier. Après plusieurs visites des services de l'État, Dieu merci, le site minier au centre du bras de fer avec les associations de protection de l'environnement. Selon la société, elle a répondu à toutes les recommandations nécessaires à la poursuite de ses activités. C'est ainsi qu'elle obtient une autorisation provisoire de 12 mois qu'il faudra valider par une nouvelle demande en fin d'année. Mais pour Oplata Mining Group, cette décision est une première victoire. Elle lui permet de relancer ses machines arrêtées depuis octobre dernier. L'entreprise qui emploie aujourd'hui 82 salariés est en train de faire revenir tout son personnel et remettre en place toute la logistique d'approvisionnement du site de Saint-Élie. Dans les prochains jours, Oplata sera pleinement opérationnel. À Dieu merci. L'objectif est la reprise de sa production d'or par cyanuration, un procédé offrant un meilleur rendement que l'extraction traditionnelle par gravimétrie, mais vivement critiqué depuis plusieurs années par les militants écologistes.
Oplata est le premier producteur d'or français. Il dispose de 700 km² de permis et autres titres miniers en Guyane. Bon après-midi, Michael. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première qui, comme chaque jour, refermait ce rendez-vous d'Haïti des Amériques réalisé aujourd'hui par Claude Battista. On se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous. Bonne journée à tous.
RFI. France 24 et La Première présente. Découvrez votre nouveau magazine d'information consacré aux territoires et départements d'outre-mer. France 24 et La Première s'associent pour vous présenter des reportages inédits au cœur de la population et des sociétés ultramarines. Décryptage de toute l'actualité marquante de la semaine, analyse et partage de connaissances. Partez à la découverte des richesses des territoires d'outre-mer sur France 24 et France24.com. Yeah.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Potpourri Show et priseparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur potpourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca. Et oui, le livre du jour des éditions prisedeparole.ca. Mouvement, un recueil de Catherine Voyer-Léger et deux autrices de la maison Prise de Parole en lice au prix Héloïse 2022 de l'Association acadienne des artistes semi-professionnels du Nouveau-Brunswick. Mouvement, le tout dernier recueil de Catherine Voyer-Léger aux éditions Prise de Parole. Ce recueil réunit deux textes, entre l'essai et la poésie, qui interrogent le rapport de territoire géographique et affectif. À travers eux, l'autrice explore des notions d'attachement qui se transforment à une époque où l'idée de la cellule familiale, du foyer stable, se confronte au désir de bouger pour le travail ou pour réaliser ses rêves. C'est un mouvement perpétuel qui est au cœur de ce recueil. Mouvement, le tout dernier recueil de Catherine Voyer-Léger aux éditions prisedeparole.ca ou que vous retrouverez sur notre site popourrishow.com.
CIUT 89.5, the sound of your city. Stream CIUT at www.ciut.fm.
France 24. 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne.
France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Adair, je vous invite à Popourri Show, le magazine de la francophonie, l'émission phare sur CUT-FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO, le Département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, la chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo, les éditions prises de parole, EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site web popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.
Monsieur Molière s'engage à préparer le sieur Jourdain en vue d'une prestation qu'il donnera devant la marquise.
Car c'est d'amour dont il est question. Celui que je porte, c'est lui-même. Faites-moi le cheval.
Ah non, 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 pas le cheval.
Je veux être au sommet de la perfection.
2022 est l'année de Molière, l'un des plus célèbres dramaturges français. Il est aujourd'hui l'auteur français le plus joué dans le monde. Pourquoi parle-t-on encore de lui 4 siècles plus tard? Quand et comment son œuvre est-elle arrivée en Afrique? Molière l'Africain, est-ce possible? Des éléments de réponse avec nos correspondants et comédiens en Europe et en Afrique tout au long de l'année 2022. Alors soyez-y. Popourri Show, 35 ans déjà. On est toujours bien ensemble.
Et il y a aussi nous. Nous qui luttons pour exprimer nos pensées. Nous qui luttons pour chercher le respect des autres. Nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte. Nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux. Nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels. Nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie. Nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Eh oui, êtes-vous franglais ou francophone? En mars 2022, CUTFM, RFI et leurs partenaires vous invitent à célébrer le mois de la francophonie. Et ça va bouger! Après plus de 2 ans à tourner en rond, cette 35e édition vous invite à bouger et à cadencer au rythme du monde de la francophonie. Concours, un témoignage, un débat, rencontres littéraires, cinéma, humour, des exclusivités et bien encore. Et oui, mars 2022, ça va bouger, bouger, pour changer son mal de place. Actes culturels, sociaux, éducatifs, à devenir partenaire à la première radio de la ville de Toronto. Valorisez votre programmation de la semaine ou du mois de la francophonie. Inscrivez-vous à notre programme officiel 2022. Envoyez-nous votre logo. Découvrez les modalités. Écrivez-nous immédiatement à popourri@cut.fm. Êtes-vous franglais ou francophone? Nous sommes 300 millions de francophones dans le monde, alors il faut se parler et bouger, bouger, bouger avec Popourri Show sur CUT 89,5 FM. 35 ans déjà, on est toujours bien ensemble et on bouge.
Depuis le tout début de l'histoire du Canada, les personnes d'origine africaine ont fait d'importantes contributions au développement de notre grand pays. Le 2e bataillon de construction a fièrement servi le Canada au cours de la Première Guerre mondiale. William Hall est devenu le premier marin canadien, le premier néo-écossais et le premier noir à recevoir la Croix de Victoria. Mary-Ann Shad Carey a été la première femme d'origine africaine à publier un journal en Amérique du Nord. Les Afro-Canadiens ont laissé leur marque dans la musique, dans les sports, et continue de contribuer à de nombreux aspects de la vie canadienne. Célébrons notre fier patrimoine. Célébrons le mois de l'histoire des Noirs.
En février et en tout temps, célébrons l'histoire des communautés noires du Canada. Chaque année, ils sont des centaines provenant de la République démocratique du Congo, d'Haïti, de Burundi ou encore du Cameroun à obtenir leur résidence permanente au Canada. Ont-ils fait le bon choix? Être noir au Canada est encore synonyme d'appauvrissement, de discrimination et le gouffre s'est élargi en 2 décennies. Comment éradiquer le racisme structurel? Est-ce possible de promouvoir la pleine participation des francophones issus de la diaspora africaine et antillaise au sein de l'establishment francophone du Canada? Une édition spéciale tout au long du mois de février, en partenariat avec la table du mois de l'histoire des Noirs de la ville de Québec, mois de l'histoire des Noirs de la ville de Gatineau, Ciné Franco, histoire des immigrants francophones, Sophie Franc et son spectacle Festive Ébène, le théâtre de la vieille 17 et mosaïque interculturelle, Tolalito Music et Mondo Carnaval du Québec, RFI, France 24 et TV5 Monde. Et nos partenaires vous invitent à une série d'activités en mode virtuel. Découvrez leurs bons plans sur popourrichaud.com. En février et en tout temps, célébrons l'histoire des communautés noires du Canada. Des expériences qui ont façonné l'histoire des Noirs dans notre société. CUT 89,5 FM, chaque dimanche de 11h à 13h. 35 ans, on est toujours bien ensemble. C'est la danse traditionnelle du Soudan. Bon mois de l'histoire des Noirs. Où que vous soyez, bienvenue sur CUT 89,5 FM, la première radio de la ville de Toronto. Eh oui, dernière émission du mois de l'histoire des Noirs et je tiens à remercier du fond du cœur tous les partenaires, les invités qui nous ont prêté leur voix, nous ont partagé leur réalité, leurs expériences, leurs souffrances. Merci de nous faire confiance. Et je vous invite à découvrir leur site web, leur biographie, ainsi des liens sur les Canadiens noirs remarquables qui ont contribué à façonner le Canada, popourrichaud.com. Les Noirs vivent au Canada depuis le 17e siècle. Certains des premiers arrivants étaient des personnes réduites en esclavage, amenées de ce que l'on appelle aujourd'hui les États-Unis d'Amérique ou des Antilles. Plusieurs études réalisées par des chercheurs à l'Université de Montréal et Ottawa démontrent les inégalités croissantes pour les Noirs au Canada. Notre prochain invité a un parcours très particulier. Nous l'avons croisé dans des symposiums, des rencontres, des consultations autour de l'équité en matière d'emploi, le racisme, l'immigration, la discrimination, Elle a supervisé, elle a mené des recherches, et oui, des études sur le terrain de Darfour Sud, au Soudan, à Lyon, en France, à Calgary, Toronto, au Canada. Ces recherches sont très pertinentes pour ceux et celles qui cherchent des éléments de réponse sur les réalités des défis que vivent les francophones noirs en Ontario, au Canada. Vous retrouverez sa biographie et ses recherches sur le site ducrefo.oisi.utoronto.ca ou tout simplement popourichaud.com. Elle s'appelle Dr Amal Madibo. Elle est professeure agrégée au département de justice sociale en éducation à l'Institut d'études pédagogiques en éducation de l'Université de Toronto. Ses recherches se penchent sur les études noires, la francophonie, l'immigration et la race, l'antiracisme. Le CREFO vous invite au lancement de son livre « Blackness and la francophonie » prévu pour le mardi 1er mars à 17h par vidéoconférence, Zoom si vous préférez, en partenariat avec l'Université d'Ottawa. Vous devez absolument vous inscrire sur Eventbrite et le lien est sur le site du CREFO et sur le nôtre, popourichaud.com. Allez, sans plus tarder, nous l'appelons Dr Amal Madibo.
Bonjour Eric.
Docteur Amal Madibo, bonjour et bienvenue à CUT FM.
Merci beaucoup Eric.
Alors tout d'abord, c'est tout un honneur de vous recevoir lors de la clôture de nos émissions spéciales du mois de l'histoire des Noirs. C'est notre 35e édition. Alors avant de parler du lancement de votre livre qui sera le 1er mars prochain, Blackness and la francophonie, même si on se connaît un peu, permettez-moi de vous présenter à nos auditeurs, car vous avez tout un parcours académique très impressionnant, avec des travaux, des recherches qui sont disponibles sur le site du CREFO. Vous êtes né au Soudan, où vous avez grandi et a été scolarisé. Vous avez commencé votre formation universitaire à la Faculté des Arts de l'Université de Khartoum, au Soudan, pour la compléter à l'Université Lumière, Lyon 2, en France, avec une spécialisation en langue et littérature française. Vous êtes la première femme soudanaise à immigrer seule au Canada pour poursuivre vos études. Et vous avez obtenu une maîtrise en art à l'université Carleton à Ottawa, au Canada, avec une spécialisation en sociolinguistique française et littérature francophone noire. Un doctorat en 2004 du département de sociologie et d'études sur l'équité en éducation de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, Université de Toronto, où vous avez été spécialisé sur l'immigration noire francophone au Canada, sur la race et antiracisme. Après, vous avez enseigné à OISI et au Collège Glendon, Université York à Toronto, au département de sociologie, je pense que c'était l'Université de Calgary. Et aujourd'hui, vous êtes professeur agrégé au département de justice sociale à l'Institut d'études pédagogiques en éducation de l'Université de Toronto, OISI. Vos recherches se penchent sur les études noires, la francophonie, l'immigration et la race, l'antiracisme en Afrique. Avant de parler de votre livre, qui ne doit laisser aucun francophone, francophile à l'écoute indifférent, j'aimerais connaître, professeur, votre opinion un peu en tant que chercheur sur ces manifestations au Canada qui ont fait la manchette du monde entier. Quel est votre regard sur ces convois de la liberté, leurs slogans anti-gouvernement, anti-immigrants et cette occupation des camionneurs à Ottawa, à Québec et dans d'autres villes du pays? Pensez-vous qu'il y a un profond malaise au Canada que nos politiciens et les médias ont sous-estimé?
Moi, je dirais d'abord merci pour m'accueillir et merci de continuer à célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Et bien sûr, Eric, pour tout le travail que vous avez fait, que vous continuez à faire. Moi, en effet, j'aurais bien voulu que justement le mois de l'histoire des Noirs ou des mouvements qui valorisent l'identité noire et les droits des Noirs, comme le mouvement des Black Lives Matter, a reçu autant de solidarité de la part des citoyens canadiens que ce que le convoi de liberté reçoit présentement. Mais au niveau de la participation des Canadiens et aussi au niveau de l'attention que nos politiciens ont accordée à ce mouvement, À mon avis, oui, il y a un malaise au Canada comme il y a un malaise partout dans le monde. Je ne peux pas dire que je suis en accord avec le convoi de liberté, ce qu'on appelle le convoi de liberté, parce que de quelle liberté est-ce qu'on pense à quelle liberté est-ce qu'on fait référence c'est la liberté de choisir de se faire vacciner ou choisir de ne pas se faire vacciner ou des questions semblables. Et mon avis comme citoyenne, je vois comment par exemple les business, les restus des Noirs par exemple souffrent pas seulement de la pandémie mais aussi de ce mouvement qui empêche de plusieurs façons la continuité de travail de ces restaurants ou de ce genre de business, des Noirs et d'autres citoyens aussi. Donc, je ne suis pas en accord avec ce mouvement. Il y a un malaise, comme j'ai dit, dans toute société, mais il faut prioriser le malaise. Est-ce qu'on parle maintenant des directives contre la pandémie? Est-ce que ça, c'est plus important que la justice sociale envers les autochtones ou les Noirs ou d'autres minorités dans la société canadienne ou dans le monde? Non. Donc, à mon avis, il faut prioriser les problèmes où la justice sociale dont souffrent les citoyens.
Blackness and la francophonie, racisme anti-noir, discrimination linguistique, construction et négociation d'identité minoritaire multiple aux éditions Les Presses de l'Université Laval. C'est votre dernier livre qui sera présenté lors d'une table ronde en mode virtuel le 1er mars à 17h. Il est rare de trouver des recherches en français mettant l'emphase sur les enjeux qui touchent les francophones noirs au Canada. À mon avis, c'est un livre utile pour les conseils scolaires, les fonctionnaires, les médias, monsieur, madame, tout le monde. Blackness and la francophonie, vous nous plongez dans le côté un peu sombre de notre histoire, de l'histoire du Canada. Une réalité que monsieur, madame, tout le monde, justement, ne veut pas toujours entendre parler. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre et quelle a été la méthodologie utilisée pour la réalisation de ce livre?
Okay. D'encourager ou même pousser à faire la recherche qui donne le fruit. Et ce livre, en effet, comme chercheur en études noires, depuis mes études au Soudan, par la suite en France et au Canada, études noires, je m'intéresse au croisement d'études noires et d'études francophones. Et donc, le lien entre la francophonie et le fait noir m'intrigue beaucoup, m'interpelle beaucoup depuis, en effet, Alan Espar, par exemple, des travaux de nos philosophes tels qu'Ossingor, que la francophonie et la noirceur ne sont pas des faits associés, mais en effet, devraient être complémentaires. Et donc, vous avez justement mentionné l'histoire. Et surtout histoire noire comme histoire partie intégrante de l'histoire de l'humanité et le racisme anti-noir systémique que nous les Noirs avons subi depuis des siècles. Donc cela en fait c'est la raison d'être de mes travaux comme chercheur moi-même noir de documenter des expériences de souffrance, mais aussi de lutte et succès des Noirs francophones de manière générale, et donc dans ce cas surtout des Noirs francophones. Donc il est important de documenter ces expériences, justement comme vous avez mentionné, parce qu'il faut d'abord le public compte. C'est pas tout le monde qui sait que les Noirs ont subi l'esclavage au Canada. C'est pas tout le monde qui connaît les expériences du colonialisme quand les Noirs ont souffert au Canada. Comme c'est pas tout le monde qui connaît les expériences ou la continuité du racisme anti-noir systémique, y compris donc dans le c'est les francophones noirs. Donc des questions qui sont aussi très liées à la francophonie. C'est pas vraiment une histoire qui est enseigné aux écoles. Donc, et c'est pas seulement l'histoire, c'est aussi les impacts de cette histoire dans la vie quotidienne des Noirs, donc la continuité du racisme anti-noir et chez les Noirs francophones, donc le croisement du racisme anti-noir systémique et la discrimination linguistique. Donc, c'est les besoins urgents de connaître ces expériences, mais aussi d'agir pour combattre le racisme anti-noir systémique et améliorer le vécu des Noirs francophones. Comme vous savez, les francophones noirs sont invisibles à la fois dans la francophonie, aussi au sein de la communauté noire. On connaît mieux les francophones, les noirs anglophones, mais pas autant les noirs francophones.
Et justement, je veux éclairer un peu lanterne des auditeurs qui nous écoutent au Canada, mais aussi à l'étranger. Comme vous savez, nous sommes écoutés un peu partout sur la planète. Souvent, les informations sur la présence des Africains francophones au Canada sont erronées. On prétend que les communautés noires au Canada, également appelées les Afro-Canadiens, ont des origines caribéennes, antillaises, et de temps en temps, on ajoute aussi les Haïtiens parce qu'ils sont là depuis longtemps. La première référence officielle de la présence de noirs au Canada est celle d'un homme noir, premier esclave, identifié en Nouvelle-France en 1629. Il s'appelait Olivier le Jeune, originaire de Madagascar ou de Guinée. Et toujours, pour la petite histoire, si je peux ajouter mon grain de sel, en 1967, le Canada abolit le système d'immigration basé sur la discrimination raciale. L'immigration est désormais ouverte à tous les immigrants autrefois interdits par la loi de l'immigration de 1910. Dès lors, l'immigration des personnes noires augmente de manière significative à partir de 1960, favorisée par le contexte économique. Des milliers d'Antillais provenant principalement d'Haïti, de Jamaïque et d'Afrique immigrent au Canada. J'admets qu'il y a des rares exceptions, des Noirs qui ont réussi leur vie au Canada, mais dans la majorité des cas et ailleurs, même le Premier ministre Justin Trudeau, vous vous souvenez, a admis publiquement qu'il y a un racisme systémique, un racisme anti-noir dans la fonction publique et un peu partout au Canada. Comment que les écoles, les étudiants, les éducateurs là qui nous écoutent en ce moment?
Oui, d'abord parce qu'en fait, c'est ça. Toute pensée doit être accompagnée des politiques. Mais les politiques, quand les politiques sont écrites sur papier seulement, donc ça donne rien. Mais il faut les mettre en mise, il faut les mettre en œuvre de façon appropriée et il faut un suivi. Vous avez dit oui, vous avez raison tout à fait, bien sûr, qu'on en parle depuis longtemps, mais on en parle où? On n'en parle pas au niveau de, dans le curriculum, par exemple. On n'enseigne toujours pas l'histoire noire au Canada de façon appropriée et approfondie. Ce que vous venez de mentionner, ça c'est très important. Et c'est le fait que les Noirs, nous francophones, sont au Canada depuis longtemps, ont participé à la fondation du Canada et de la notion de la nation canadienne. Alors que le public, on pense de manière générale que les Noirs francophones sont arrivés au Canada hier. C'est pas le cas. Donc ça n'a pas été incorporé et intégré même dans le curriculum de façon appropriée jusqu'à présent.
Alors il y a un article de Radio-Canada sur les étudiants africains qui rencontre des obstacles pour venir étudier au Canada, qui fait le buzz en ce moment, vous l'avez peut-être vu. Et un autre article, toujours de Radio-Canada, « Immigrer, s'installer au Québec requiert une bonne dose de patience. Ça fait plusieurs années que près de 90 000 immigrants qui veulent s'installer de manière permanente au Québec attendent à des réponses d'Immigration Canada. » Comment? Et justement, de l'autre côté, on dit il y a une pénurie de main-d'œuvre. On a besoin des étudiants pour renflouer nos universités francophones hors Québec. Professeur Madibo, comment faire pour justement que l'immigration au Canada, premièrement, il y a des problèmes incroyables, parce que le ministre de l'immigration cette semaine a admis qu'ils ont peut-être fait erreur en divulguant cette information et que même le Premier ministre a dit qu'il va tout essayer de faire pour réparer la situation.
Oui, exactement. C'est parce que, encore une fois, il y a une différence entre ce qu'on dit et puis ce qu'on fait. Et vous avez mentionné que le Canada a aboli la discrimination, y compris la discrimination raciale, au niveau des politiques de l'immigration au Canada depuis le 19e siècle. Mais ce qui a été aboli, c'est le racisme explicite. Mais le racisme subtil, implicite, ça n'a pas été aboli. Et puis c'est le côté du racisme dont on ne parle pas, mais c'est le côté qu'il fait vraiment combattre.
Alors pour terminer, je veux rappeler aux auditeurs que vous avez été reconnu par plusieurs organismes communautaires et milieux académiques, dont 100 ABC Women, les 100 femmes noires canadiennes accomplies. Et aussi à la question qu'on vous a posée une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, on vous avait dit, docteur Amal Madibo, quel est votre avis aux prochaines générations noires du Canada? Vous avez répondu, vous êtes l'avenir du Canada, de nos collectivités, réfléchir et mettre en œuvre des moyens d'inclusion pour améliorer le sort des Noirs dans la société canadienne. Sois fier de qui tu es. Vous vous souvenez?
Maintenant que vous le dites, oui.
Alors voilà, c'est sur cette note optimiste qu'on termine cette émission spéciale qui conclut le mois de l'histoire des Noirs sur CUT 89,5 FM. Docteur Amal Madibo, professeur agrégé au département de justice sociale en éducation à l'Institut d'études pédagogiques en éducation de l'Université de Toronto. Ses recherches se penchent sur les études noires, la francophonie, l'immigration et la race, l'antiracisme en Afrique. Le CREFO, l'Université d'Ottawa, vous invite au lancement du livre de notre invité Blackness and la francophonie aux éditions des presses de l'Université Laval. Lancement prévu mardi 1er mars à 17h par vidéoconférence. Et ce livre est disponible en anglais ou en français?
Maintenant, c'est en anglais, mais ce sera traduit en français.
Très bien. Alors, il faut absolument vous inscrire, madame, monsieur, afin de recevoir le lien Zoom. Tous les détails sur le site du CREFO et popourichaud.com. C'est aussi un des premiers événements dans le cadre du mois de la francophonie. Je rappelle aux auditeurs que cet entretien est disponible en ligne sur notre site popourichaud.com. Docteur Amal Madibo, un immense merci pour votre engagement, votre dévouement à la cause. J'espère vous retrouver un peu plus souvent sur nos ondes et dans les médias. Et nos salutations chaleureuses à vos collègues au CREFO et à Ozzy qui nous écoutent en ce moment. Merci encore et que la force soit avec vous, professeur.
Merci à vous aussi, à Eric, et puis à vous que nous sont aussi nos écouteurs. Et j'ai toujours confiance à la jeunesse. Donc ça n'a pas changé, ça ne changera pas.
Très bien. Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir. Eh bien, nos remerciements au professeur Amal Madibo du département de Social Justice Education, OSI, le CREFO. Merci à Valérie Daly au CREFO pour la coordination de cet entretien. Et je vous invite à visiter le site du CREFO, une des recherches qui pourrait vous intéresser, l'identité raciale et ethnique des immigrants africains francophones réalisée en 2008-2011. Tout ça, bien sûr, sur le site du CREFO, les podcasts du CREFO, quoi de neuf, les cafés du CREFO revient pour une troisième saison et vous retrouverez tout le lien sur le site du CREFO avec la liste de tous les invités. Et merci à tous nos invités, les organismes du mois. Merci à Le Franco, le Flo Franco, notre invité du dimanche, DJ Devera, mille merci. L'équipe technique de CUTFM, merci. Salutations chaleureuses à Darna Storou, Jean Jubeneau, Marcel Dine de Ciné Franco. Fête de la directrice générale de Sophie Franc. Elle sera peut-être des nôtres car Sophie Franc est notre partenaire. Et j'espère que le spectacle s'est bien déroulé hier. Festive Eben, édition 2022, c'était hier soir. Bien le bonjour au professeur Eddy Bouraoui, notre ami de toujours Elisabeth Drapeau de Tolalito Music et Mondo Carnaval. Et nos salutations chaleureuses à toute la belle équipe de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de la ville de Québec et les regroupements du mois des Noirs à Gatineau. Rendez-vous dimanche prochain pour notre première émission du mois de la francophonie. On veut vous faire bouger. Et on veut bouger les choses. On veut faire bouger les choses. Eh oui, nous allons bouger. Écrivez-nous si cela vous intéresse. popourri@cut.fm. Allez, bon dimanche, bon appétit si vous êtes à table. Prenez soin de vous et de vos proches. Que la force soit avec vous.
Allez, je vous laisse avec une pensée spéciale à nos amis maliens qui traversent des moments difficiles. Avec une continuité troublante, vieux Farka Touré a repris depuis 17 ans le flambeau laissé par son père, figure internationale de la musique malienne, disparu en 2006. Le jeu de guitare du fils cadet d'Ali Farka, surnommé le Hendrix du Sahara, est devenu une référence. Vieux Farka Touré, un guitariste acclamé dans le monde entier. Allez, ciao, ciao, ciao!